Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure de la saison culturelle de la Lituanie qui se tient actuellement en France jusqu'en décembre et à laquelle j'ai déjà consacré un premier volet avec les auteurs lituaniens eux-mêmes, je vous propose d'écouter aujourd'hui la déclaration d'amour d'un écrivain français à Vilnius, la capitale de cet État balte. Il s'agit de Thierry Clermont, journaliste et romancier, qui vient de publier « Vilna Tango » aux éditions Stock, un récit intime qui nous plonge aussi dans l'histoire, la littérature et la géographie de cette ville, au passé douloureux mais tourné vers l'avenir. Direction donc Vilnius, dans un square, où jouent autour de nous quelques enfants et où je retrouve Thierry Clermont qui, pour commencer, nous lit un extrait de son livre.
Il y a ici une manière d'effervescence diffuse, d'énergie qui se déploie par estompe et qui me plaît, et que l'on ne trouve ni à Riga ni à Tallinn, embaumée dans les ocres et les pastels du temps, embrumée dans l'exubérance baroque ou la froideur nordique. C'est quelque chose d'impossible à nommer et qui serait comme un remède vilnois à la mélancolie, enfanté par un climat abrupt ou brut, si on y prête bien attention, mais doux sous sa couche râpeuse, un esprit nourri de lointain et qui m'est cher. Se séparer du monde et de l'universel, retrouver l'insignifiance, débusquer une harmonie batailleuse, insoupçonnée, livrée par les éléments. Faire de ces heures et ces jours des faits de vie, en me nourrissant de fragments, de miettes. Pour cela, Vilnius est la ville idéale. C'est l'une des capitales européennes du trompe-l'œil et du trompe-cœur. Je pense au vers du long poème « Nocturne lituanien » de Joseph Brodsky, écrit au début des années 70, après son expulsion de l'Union soviétique, et dédié à son ami Thomas Venclova. Tout a une limite, pour la vue, l'horizon, pour le désespoir, le souvenir. Voilà exactement ce que je ressentais, ce que j'avais pressenti, ici et maintenant, dans le reflet de la vie. Je suis ce que je puis, et c'est ainsi.
Merci beaucoup Thierry Clermont pour cette lecture extraite de votre nouveau roman Vilna Tango qui paraît aux éditions Stock et qui précisément se déroule à Vilnius où nous sommes ensemble tous les deux. D'ailleurs, est-ce que vous voulez bien nous décrire dans quel quartier nous nous trouvons là ?
Bonjour, alors nous nous trouvons au cœur de la vieille ville de Vilnius. Nous sommes précisément rue de Vilnius, pratiquement à l'angle ou dans le prolongement plutôt de la rue des Allemands, qui était une rue très très commerçante avant-guerre. Et on est à deux pas de l'église Sainte-Catherine, une des grandes églises baroques, une des nombreuses églises baroques de la ville. Un tout petit peu plus loin, il y a un musée qui vient d'être rénové et d'être réouvert. Il faut savoir qu'il y a au moins une vingtaine de musées à Vilnius. C'est le musée du cinéma et du théâtre. Et en ce moment, l'exposition qui a lieu, hors exposition permanente, elle est consacrée aux artistes et comédiens du théâtre juif des années 20 et 30.
Et c'est vrai que c'est un thème récurrent tout au long de votre récit. Alors c'est une promenade dans Vilnius, à la fois Vilnius historique, culturel, juive, linguistique, littéraire, bien entendu, et personnel, puisque vous racontez aussi, Thierry Clermont, tout ce qui vous lie à cette partie du monde et tout ce qui vous lie au voyage, une activité que vous pratiquez comme journaliste, mais aussi comme écrivain. Qu'est-ce que vous veniez chercher à Vilnius ? Pourquoi êtes-vous venu ici la première fois en Lituanie ?
J'avais lu quelques ouvrages et je trouvais l'histoire du pays assez fascinante. Et je me suis dit, bon, on va voir à quoi ça ressemble. Plusieurs personnes m'en avaient dit du bien, m'avaient encouragé. Si, viens voir, tu verras, tu vas découvrir plein de choses. Il y a encore des mystères, il y a plusieurs couches d'histoire, il y a des choses cachées. un peu mystérieuse. Ça a été longtemps un pays païen. C'est le dernier pays européen à avoir été christianisé. Donc il y a encore des survivances de paganisme qui ne sont pas du tout folkloriques. Tu verras. Et puis il y a des traces littéraires. Il y a l'histoire de la Shoah. Il y a le quartier juif. Il y a beaucoup d'écrivains soviétiques qui venaient un petit peu respirer presque l'air de l'Occident durant l'ère soviétique jusqu'au début des années 90. Donc tout ça fait que je me suis dit, bon, moi je vais me promener, c'est le mois de juin, il va faire beau. La première fois, donc c'était il y a un an, effectivement, il faisait très très beau. J'ai fait des rencontres d'écrivains, d'artistes que j'avais repérés. Donc à la fois des rencontres de personnes, des rencontres de livres, des rencontres de décors, de paysages, font que tout ça m'a séduit, étonné, charmé, pour tout dire, pas aller jusqu'à envoûter, mais il y a un petit peu de tout ça. Et donc j'ai décidé d'en faire un livre pour faire découvrir aux lecteurs français un petit peu curieux ce que moi j'ai découvert en fait au fur et à mesure de mes balades, de mes promenades et de mes rencontres.
Quel est le charme ici particulier de Vilnius, diriez-vous? Parce qu'on ne consacre pas non plus un livre par hasard à un lieu. C'est bien qu'il émane quelque chose de ce lieu en particulier.
On a vraiment l'impression d'être au cœur de l'Europe. Même si on m'a dit que la Lituanie, c'est un pays excentrique dans les deux sens du terme. C'est-à-dire à la fois singulier et décentré, en dehors du centre. Et il se trouve que depuis évidemment un peu plus de deux ans, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a déplacé le centre de gravité de l'Europe vers les pays baltes, notamment la Lituanie, qui accueille des contingents de l'OTAN, donc fait de régiments et de divisions étrangères. Donc tout ça a participé évidemment à mon intérêt pour le pays, pour la ville, qui est extrêmement cosmopolite. C'est-à-dire qu'elle redevient, moi c'est ce qu'on m'explique, hein. Un petit rappel historique, jusqu'en 1940, donc avec l'arrivée des soviétiques et ensuite des nazis un an plus tard, Vilnius était presque une enclave au sein de la Lituanie. C'est-à-dire que ça avait été rattaché, annexé plutôt par la Pologne après la Première Guerre mondiale. Et c'est une ville qui était constituée de 40% de juifs, de 30% de polonais. Ensuite, il y avait un peu de russes, de biélorusses, des tatars également, et un peu de lituaniens. C'est-à-dire, c'était une ville où on entendait parler à la fois russe, yiddish, polonais. Et aujourd'hui, avec l'internationalisation, donc on retrouve un peu ces différentes langues qu'on entend dans la rue, sur les marchés, l'ukrainien évidemment aussi, et le russe, mais le russe parlé par les Ukrainiens. Des Ukrainiens et Ukrainiennes surtout, réfugiés qui ont fui la guerre au Donbass, sont russophones. Donc ce sont des Ukrainiens qui parlent russe, on les entend dans la rue, on les entend dans les cafés, dans les boutiques, sur les marchés, donc on a l'impression de baigner dans une espèce de tour de Babel, c'est assez agréable. Et je dis cosmopolite dans le vrai sens du terme, on peut dire aussi que Paris est une ville où on entend beaucoup de langues. La particularité ici, c'est que les gens sont multilingues, ils parlent lituanien, mais ils comprennent le polonais, les plus âgés ont appris le russe, évidemment, à l'école. Donc tout ça fait qu'on baigne dans une espèce d'encyclopédie linguistique plutôt agréable. Et ça correspond aux variations du paysage. On croise une église baroque, un peu plus loin, il y a une cathédrale orthodoxe. Voilà, il y a des cafés ukrainiens, et des restaurants biélorusses, et plusieurs musées, justement, qui rendent hommage à cette terre qui était longtemps une terre d'accueil.
Et c'est vrai qu'il y a encore au XXe siècle des artistes, des écrivains qui sont soit originaires de Lituanie, soit qui sont nés en Lituanie. Alors évidemment, on pense à Romain Gary, mais il y en a bien d'autres, Thierry Clermont.
Oui. C'est-à-dire que c'est à la fois une terre d'accueil et une terre de départ. Moi, je m'étais amusé à faire la liste des auteurs, des artistes américains ou européens nés en Lituanie ou dont les parents sont originaires de Lituanie. C'est absolument vertigineux. Pour la France, on a Romain Gary, évidemment, né à Vilnius. Il y a grandi. Il y a d'ailleurs une statue, une petite statue qui lui rend hommage, une statue très sympathique. Il y a Joseph Kessel, il ne faut pas l'oublier, son père était médecin. Ici, il est né en Argentine, voilà encore quelqu'un qui a bougé, mais Kessel est d'origine lituanienne. Le poète russe Ossip Mandelstam est né à Varsovie, mais de parents lituaniens. On pourrait continuer, les grands-parents de Bob Dylan et de Leonard Cohen sont lituaniens. Donc voilà, ils ont fait un peu la bande originale de l'Amérique, elle vient de Lituanie. Donc il y a ce perpétuel mouvement de population. Comme vous le dites, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'intellectuels, d'artistes sont partis. Le moment du retour de l'indépendance au début des années 90, le pays était vraiment pauvre, il y avait encore des pénuries, la disette, des manques, une sous-industrialisation, qui fait que les jeunes générations sont parties travailler essentiellement en Angleterre, en Irlande, en Allemagne évidemment, et en Norvège, le nouvel Eldorado. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces gens qui étaient partis dans les années 90 et surtout les années 2000, parce que la crise de 2008 a été absolument terrible ici, rentrent au pays. Parce que le niveau de vie s'est élevé, parce que menace de guerre, donc on va être proche de la famille. Ces gens reviennent avec une très très forte qualification et créent leurs entreprises. Et quand je dis beaucoup de gens rentrent, c'est plusieurs dizaines de milliers par an. C'est assez spectaculaire ce retour au pays, en fait, ce retour aux racines. On aurait pu penser que la menace de la guerre, l'instabilité fait que non, c'est trop risqué, c'est trop dangereux. Non, les gens reviennent au pays.
Puisque vous parliez de musique, Thierry Clermont, en effet, c'est peut-être l'heure de faire une pause musicale dans Littérature sans frontières. Et après, on va continuer de déambuler avec vous dans Vilnius, qui est au cœur de votre nouveau roman. Est-ce que vous avez une envie particulière ou vous nous faites confiance sur une musique lituanienne, soit traditionnelle, soit un peu plus moderne?
Je vous fais confiance, mais pourquoi pas un yiddish tango pour répondre au titre, parce que le titre vient de là. En fait, Vilna, c'est un peu le nom international et européen de Vilnius, qui est un nom Vilnius, évidemment la sonorité est très très lituanienne. Donc j'ai découvert qu'il y avait des tangos yiddish qui sont absolument superbes, qui étaient très populaires dans les années 20 et 30, aussi bien à Varsovie, à Cracovie qu'à Vilnius. Pourquoi pas, ou autre chose, quelque chose de folklorique ou de plus moderne. Il y a la musique moderne qui est très très bien.
Moi je suis assez partante pour écouter le yiddish tango.
Allons-y.
Spiel, spiel, wir retten sie, wo ich spiel, spiel, ich bin dich mit ne Schumme.
Et nous voici de retour à Vilnius dans Littérature sans frontières sur RFI pour une émission exceptionnelle sur place avec l'écrivain et journaliste Thierry Clermont qui publie donc en cette rentrée littéraire Vilna Tango aux éditions Stock. Alors on a un peu posé le décor de l'écriture de ce livre en première partie. Maintenant on va se promener peut-être un peu plus avec vous dans ces quartiers de cette si belle ville aux accents baroques et avec des traces historiques encore très fortes. On vous retrouve tout de suite.
Allons-y.
Et donc là, nous sommes à nouveau avec vous dans l'ancien ghetto juif de Vilnius, Thierry Clermont, sur un lieu très symbolique.
Oui, un lieu symbolique, un lieu de mémoire, un lieu de souffrance, un lieu de mort aussi. Un petit rappel historique, les troupes soviétiques arrivent en 1940, les nazis arrivent un an plus tard, précisément. La première chose qu'ils font, c'est de mettre en place une espèce de conseil, un Judenrat, et ils ouvrent deux ghettos. Deux ghettos qui se trouvent dans le quartier juif, donc au cœur de la ville, au cœur de la vieille ville, où les juifs sont enfermés, consignés, enfermés et contrôlés. Le premier ghetto, plus petit, au nord, regroupe essentiellement les vieillards, les infirmes, les chômeurs, les invalides, bref, les gens qui ne peuvent pas travailler. Ce ghetto est liquidé. Quand on dit liquider un ghetto, ça veut dire qu'on extermine sur place les gens. Au bout de quelques semaines, les exécutions se font en partie seulement à l'intérieur du ghetto, mais surtout à une dizaine de kilomètres de Vilnius, dans une forêt qui s'appelle la forêt de Ponari, où au total ont été exterminés sur place près de 100 000 juifs. Le deuxième ghetto est beaucoup plus grand, beaucoup plus peuplé, c'est-à-dire surpeuplé. Le ghetto, c'est quand même quelques ruelles pavées, des maisons basses où les gens étaient entassés. Et ce ghetto accueillait également des juifs polonais qui, depuis 1939, avaient fui l'envahisseur nazi. Donc un surpeuplement des conditions de vie absolument effroyables. Il y a plusieurs témoignages qui ont pu survivre, c'est-à-dire essentiellement des gamins, des pré-ados de 13-14 ans qui ont écrit leur journal intime et qui ont été retrouvés par la suite. C'est absolument, absolument terrifiant. Et là où on se trouve, précisément, c'est l'emplacement où se trouvait la grande synagogue. La grande synagogue de Vilnius a été ouverte au XVIIe siècle. Et en fait, c'est tout un ensemble, un complexe à la fois culturel et spirituel, hein, puisqu'on y trouve des librairies, des bains publics, etc. Enfin, c'était vraiment un lieu de vie. Donc les nazis ont détruit en partie cette grande synagogue, mais ils ne l'ont pas complètement détruite. Il restait quelques murs, quelques éléments. Et bien, quand les soviétiques sont arrivés en 1944, une des premières choses qu'ils ont faites, c'est on détruit tout ça, on coule ça dans le béton, on oublie. Donc, en résumé, on pourrait dire que les nazis ont tué les juifs, les soviétiques ont assassiné leur mémoire. Voilà, c'est une constante dans tous les pays de l'Est.
On parlait donc avec vous de cette mémoire, à la fois la mémoire juive, mais aussi la mémoire historique dans son ensemble. Est-ce que vous avez l'impression que la nouvelle génération s'intéresse plus justement à tous ces événements qui ont peut-être été tus, niés, ou en tout cas qui ne sont jamais vraiment dits ?
Oui. Oui, c'est certain. Il y a eu comme un saut générationnel. C'est-à-dire que les gens qui ont connu l'Union soviétique, la répression, le KGB, les pénuries, etc., ne voulaient plus entendre parler de toutes ces histoires. Ça appartenait au passé, au mauvais passé. Et les jeunes générations, surtout les moins de 30, 35 ans, s'interrogent. Pourquoi ce silence des parents et des grands-parents ? Ça fait partie de notre histoire, c'était quelque chose d'important qui faisait partie de l'identité de la ville. Donc moi j'ai rencontré une jeune artiste prénommée Lina, qui est plutôt militante, activiste, comme on dit aujourd'hui, qui est très très engagée auprès des réfugiés ukrainiennes, qui en 2019 est tombée sur les photos d'archives, non pas du ghetto. Il n'y avait pas de ghetto avant les nazis à Vilnius, c'était le quartier juif, voilà, tout simplement, avec des artisans, des commerçants. Le père de Romain Gary avait son magasin de fourrure dans ce quartier, etc. Donc elle s'est interrogée et elle est partie de photos d'archives de vieux monsieur, de jeunes marchands de journaux, d'écolières. Et en fait, elle a reproduit ces images sur les murs de la ville avec la technique du pochoir. Agrandie, évidemment, donc une des plus connues, c'est un vieux monsieur avec son chapeau de fourrure sur un mur qui est à 50 mètres de l'ambassade de France. Elle a fait une série d'une dizaine d'œuvres, à peu près, donc en noir, en pochoir noir, pour témoigner justement de ce passé disparu. Et elle est jeune, donc le numérique, les nouvelles technologies, elle maîtrise ça parfaitement. Donc il y a un QR code au bas de chaque œuvre qui permet de retrouver l'origine de la photo et puis l'histoire du quartier, etc.
Et est-ce que cette réappropriation de la mémoire collective peut se lire aussi dans les ouvrages de la nouvelle génération d'écrivains, ou en tout cas les écrivains qui aujourd'hui publient en Lituanie ?
Oui, c'est évidemment abordé, même si ce n'est pas central. Alors, il y a quelques romans historiques sur des figures de nazis ou de résistants, mais ça, c'est plutôt marginal. Les jeunes générations regardent quand même plus aujourd'hui et demain qu'hier, en fait. Mais c'est quelque chose qu'ils ont intégré. Et c'est un passé qui est toujours douloureux ici à évoquer. Les plaies ont du mal à se refermer. Les gens restent très, très sensibles. Du fait, notamment, qu'il y a eu de nombreux collaborateurs actifs, c'est-à-dire que les nazis étaient aidés par les miliciens locaux, hein, ce qu'on appelle gentiment des supplétifs ou des auxiliaires. C'est connu, il y avait un antisémitisme latent, évidemment, qui a disparu, parce qu'il n'y a plus qu'une communauté de 5000 juifs.
Et dans cette littérature du XXe siècle, quel est l'auteur ou le livre, Thierry Clermont, que vous nous conseilleriez de lire en priorité ? À la fois un grand livre d'un point de vue stylistique, mais aussi un livre qui nous fait rentrer dans la Lituanie et dans Vilnius, peut-être en particulier ?
Je pensais à deux ouvrages, traduits en français, bien sûr. Hein. Le premier est une espèce d'essai, on va dire de récit historique, du grand poète et écrivain Thomas Venclova, qui est toujours vivant, un monsieur de 87 ans, qui était un grand ami du futur prix Nobel Joseph Brodsky, qui a bien connu à Saint-Pétersbourg Anna Akhmatova, la veuve de Mandelstam aussi. Un beau livre qui s'appelle tout simplement Vilnius, qui est un hommage à la fois littéraire, culturel, historique à la ville. On apprend plein de choses, c'est aussi une espèce de déclaration d'amour à sa ville. Lui, il était dissident, donc il était chassé de l'Union soviétique dans les années 70. Un dissident qui avait participé au groupe d'Helsinki, qui était très très actif justement à cette époque, dans les années 70. Il était universitaire pendant 30 ans aux États-Unis. Il est rentré au pays, il continue de publier, de s'exprimer en public. Il ne mâche pas ses mots, d'ailleurs. Quelqu'un d'absolument brillant, intelligent. Il y a un autre roman traduit en français, mais qui, hélas, s'est épuisé. C'est Vilnius Poker, c'est un superbe titre, de Richard Dars-Gavelis, qui est un livre un peu iconoclaste, et en même temps, c'est un peu l'équivalent d'Ulysse de Joyce. Hein. C'est l'hommage à la ville, qui est traité presque comme un personnage, avec beaucoup d'ironie, de moquerie. C'est un livre absolument superbe.
Et puis il y a des auteurs, une autrice en particulier qui commence à émerger, l'autrice de la saga L'impératrice de pierre.
Oui, 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 elle s'appelle Kristina Sabeliuskaïtė. C'est une personnalité qui vend beaucoup de livres, qui vit entre Londres et Vilnius, qui est universitaire, spécialiste de l'histoire de l'art, que j'ai rencontré à plusieurs reprises à Paris et à Vilnius. Et c'est quelqu'un qui régulièrement publie des tribunes dans la presse où elle ne mâche pas ses mots, où elle met les pieds dans le plat également, notamment... pour ce qui est des relations entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, et son regard posé sur la Russie. Elle a grandi ici durant l'époque de l'Union soviétique, donc elle a connu les pénuries, les disettes, la censure, etc. Donc son grand message, c'est quand même les Russes sont dangereux depuis toujours, depuis les tsars, depuis Staline et depuis Poutine. Et le message qu'elle veut faire passer, c'est Europe de l'Ouest, réveillez-vous, ouvrez les yeux. La guerre menée par Poutine contre l'Ukraine n'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre l'Europe de l'Ouest, contre ses valeurs, contre la démocratie. Après l'Ukraine, ce sera les pays baltes qui seront visés, et ensuite, ce sera l'Europe de l'Ouest. Voilà, et tout ça est dit d'une façon un peu véhémente, mais toujours très, très argumentée.
Cette guerre qui est à nos portes, à leurs portes.
Oui, c'est-à-dire quand on lit la presse ou qu'on écoute les gens, c'est quand même les gens se préparent à la guerre. Peut-être pas en situation d'alerte, mais les troupes et les moyens militaires de l'OTAN sont sur place. Notamment au nord du pays, il y a une base aérienne de l'OTAN avec des équipes tournantes. Donc une fois, c'est des Mirages, une autre fois, ce sont des avions de chasse néerlandais. Donc ils surveillent le ciel de la Baltique, qui est très fréquenté par l'aviation russe, notamment avec des brouillages de fréquences GPS régulières. Il y a un bataillon allemand qui commence à s'installer à la frontière biélorusse. Il arrive progressivement, ce bataillon, qui va être formé de 4000 hommes. C'est la première fois depuis 80 ans que l'armée allemande, la Bundeswehr, s'installe hors de ses frontières pour défendre un pays de l'OTAN. Donc il y a menace, ça c'est clair. J'ai pu rencontrer le chef de l'État, Vytautas Landsbergis, au moment de la déclaration d'indépendance, un vieux monsieur qui a plus de 90 ans, et qui m'a dit, et c'est ce que je raconte dans le livre, ce n'est pas l'OTAN qui va défendre la Lituanie, mais c'est la Lituanie qui défendra l'OTAN. Voilà, c'est un peu provocateur, mais c'est plutôt bien résumé.
On va finir sur une note littéraire avec vous, Thierry Clermont, et dire qu'en effet, nos deux pays, Lituanie et France, vont renforcer leurs liens littéraires grâce à la saison lituanienne de septembre à décembre à Paris, mais aussi en région parisienne et dans les régions françaises. Et dire que votre roman aussi... Votre livre participe aussi de ce lien amical qui se crée entre les deux pays et que vous renforcez. Donc je rappelle le titre « Vilna Tango » qui est apparu aux éditions Stock. Et avant de quitter ce square là de Vilnius où encore une fois on entend les enfants autour de nous, est-ce qu'il y a un endroit où on peut danser le tango là tous les deux?
On va essayer de trouver, mais on trouvera.
Achou, merci. Et comment dit-on au revoir en lituanien?
Ike.
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 Littérature sans frontières. Catherine Frujon-Toussaint. Apolline Verlon.